autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle pour une nouvelle infusion de science à partager, chers amis auditrices et auditeurs. Puisque vous le savez, vous pourrez gagner quelques exemplaires des magazines de mes confrères de la presse scientifique qui ont mouillé la chemise ce mois-ci, n'est-ce pas, Franck Daninos ? Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Franck. Pour Science et Avenir, vous avez mené l'enquête sur l'insomnie et vous en avez retrouvé le sommeil. Vous nous direz comment et pourquoi. François Lassagne, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous lancez l'alerte, c'est la une de Pour la Science, vous lancez l'alerte sur la fonte des glaces, glaciers en sursis, quelle perspective pour la fin du siècle. Un peu plus réjouissant avec vous, Dylan Beyner, bonjour.
Bonjour.
Dans Science et Vie, nous partagerons une autre vision du monde, celle des animaux, dans l'œil de l'aigle, du poulpe ou du caméléon, ça promet. Et puis nous remonterons le temps avec vous, Hervé Poirier, bonjour.
Bonjour Caroline.
Dans Epsilon, vous nous raconterez comment la génétique réécrit toute l'histoire des premiers Européens. Et nous interrogerons enfin avec vous, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Nous nous interrogerons sur la meilleure manière de calculer l'expansion de l'univers. Mais jusqu'où et à quelle vitesse? Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, bienvenue pour commencer par fêter comme il se doit le prix Abel 2024. C'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques décerné au chercheur français Michel Talagrand, mathématicien d'exception à tous les sens du terme, sacré personnage aussi. Ce spécialiste internationalement reconnu des probabilités s'est toujours tenu à l'écart des médias et en gros, il n'en est toujours pas revenu de son prix Abel. Extrait de son interview sur la chaîne YouTube du CNRS.
Il y a de nombreuses gloires des mathématiques qui ont reçu le prix Abel et c'est quelque chose d'inimaginable pour moi d'être dans cette liste. J'ai eu un vide total dans mon cerveau pendant plusieurs secondes. Et je crois que le mot « surpris » n'est pas du tout adéquat. C'est à peu près comme si on m'avait annoncé qu'un vaisseau extraterrestre venait de se poser devant l'hôtel de ville. C'est à ce niveau-là. Il y a eu, mes fonctions mentales se sont absolument arrêtées. Mon fils m'a parlé du complexe de l'imposteur, dont visiblement je suis un peu victime, c'est-à-dire d'éprouver que... il s'agit d'un cercle auquel je n'appartiens pas. Et à cette minute même, c'est complètement inimaginable. Je n'ai pas encore intégré du tout ce que ça représente. C'était vers 1983, et alors j'ai fait une grande avancée au début, qui est probablement une des choses qui sera dans la citation du prix Abel. Et après avoir fait cette avancée, j'ai posé des conjectures à l'esbrouf, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le moindre indice de support, ni la moindre méthode pour les aborder. C'était simplement, voilà, si je rêve, comment peuvent être les choses le mieux possible? Et il se trouve que, 30 ans plus tard, toutes ces conjectures ont été résolues. Donc le domaine là, en un sens, enfin je n'ai pas commencé, mais où j'ai fait peut-être une des premières étapes importantes, il se trouve qu'il a été entièrement parcouru. Et ça, c'est quand même une grande satisfaction. C'était pas pensable qu'on puisse résoudre ces choses. Et elles ont été résolues quand même. Et bien sûr avec la contribution de nombreuses autres personnes. Je ne suis pas tout seul. Hein.
Éminemment sympathique, le lauréat du prix Abel 2024, c'est donc le mathématicien français Michel Talagrand, déjà lauréat d'ailleurs des prix Love et Shaw, et médaille de bronze du CNRS, vraiment un personnage assez irrésistible. Il faut l'imaginer avec son bonana, dans des cheveux aussi blancs que sa barbe, et un sourire malicieux, il est très joueur. Il a d'ailleurs lancé pas mal de défis à ses confrères et consorts mathématiciens et mathématiciennes, et il s'attaque désormais à la théorie des champs quantiques. Son secret pour réussir, malgré une maladie génétique qui lui a fait perdre un œil, il l'a confié à David Larousserie du journal Le Monde. Travailler jusqu'à l'épuisement, mais pas plus. Un commentaire peut-être, je ne sais pas, Franck, Hervé peut-être, Hervé Poirier.
Ce qui me touche beaucoup moi, dans la personnalité de M. Talagrand, c'est que contrairement à l'image que les mathématiques peuvent donner, en particulier lors de l'enseignement, c'est d'abord et avant tout une école de la liberté, une école de l'imagination. Et c'est toujours touchant quand une personnalité aussi humaine qui va à l'opposé un peu des archétypes scientifiques. Mais les mathématiques, fondamentalement, c'est de la créativité.
C'est ça, c'est la créativité de l'imaginaire et de l'imagination, Franck.
Juste souligner un petit détail, mais qui nous a fait plaisir. Dans une interview
qu'a réalisé mon collègue Philippe Pajot.
Dans la recherche.
Collègue de la recherche, mais qui travaille aussi pour Sciences et Avenir. Donc, Michel Talagrand précise que sa vocation, donc pour son amour, son goût pour les sciences et l'astronomie en particulier, lui est venu notamment en lisant Sciences et Avenir.
Oh, ça doit faire plaisir. Ouais.
Voilà, puisque son père, lui-même mathématicien, l'a abonné donc à Sciences et Avenir dès l'âge de 7 ans. Et donc, il aurait pris beaucoup de plaisir à lire toute une panoplie d'articles, ce qui lui aurait donné envie d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
Avis à vous, chers amis auditeurs et auditrices, qui, grâce à nous, pouvez lire tous les magazines que l'on va vous proposer aujourd'hui. En tout cas, nous, on aimerait bien recevoir ce sacré mathématicien Michel Talagrand. Ça va peut-être se faire. On vous tient au courant, hein, bien sûr. Autour de la question, comment la science infusée se diffuse jusque chez vous? Cette fois-ci, pour vaincre l'insomnie, ben oui, c'est la une et le dossier de Science et Avenir que vous avez signé, Franck Danino, ce qui vous a même fait retrouver le sommeil. Pourquoi et comment? À suivre dans Science et Avenir, dont nous avons, je vous le rappelle, quelques exemplaires à vous offrir. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, pendant que les rappeurs Jazzy Baz et So Luxueux, s'il vous plaît, Alpha One, chantent eux aussi leur insomnie sur RFI.
Reste loin de moi, c'était dans ces bises là. Ah, moi je fais jamais de sieste, non. J'ai peur que mon cœur me chie là, comme l'a fait cette fille, tu vois. Zéro garantie, on vit sans garantie. Lorsque je ride, tous les chats sont gris, donc je roule qu'avec des guépards. C'est rare que je fasse mon tri, mon avenir s'assombrit. Chérie, si je passe te prendre, c'est pas pour t'emmener quelque part.
Insomnie, je ne fais qu'un avec la nuit. Après minuit, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la mort.
Dans Paris, lors de mes nuits d'insomnie, quand les rues sont vides, les néons donnent à la ville des reflets d'incendie. On roulera dans Paris, lors de mes nuits d'insomnie, quand les rues sont vides. On donne à la ville des reflets d'incendie.
Transaction vite fait,
transaction vite fait.
Équipe de dealers,
équipe de dealers.
Les chats sont biffés, change la nuit en clip de thriller.
Michael.
La graine du crime pousse, l'envie de flouze fait partir les grammes. Ce qui me touche, les drames de cette vie ouf. Une femme enceinte fume du crack sur la ligne 12. Les mêmes insomnies, 10 ans en arrière, 10 ans plus tard. Insomnie dans Pitern, comme un malade dans son lit d'hôpital.
Dans son lit d'hôpital.
3 jours sans Midor, ouais. Tu ne le ferais pas, même pour 100 000 dollars. 3 jours sans Midor, piqué du nez comme avion sans pilote. 3 jours sans Midor.
Insomnie.
Ah, et l'insomnie, version Jazzy Baz et Alpha One sur RFI. Et dans le dossier de Science et Avenir de ce mois d'avril que vous avez rédigé, Franck Daninos, parce que si j'ai bien lu, vous vous sentiez extrêmement concerné. Insomniaque, hein, Franck.
Extrêmement fatigué. C'est. Effectivement, très inhabituel, mais j'ai proposé à ma rédaction en chef un sujet qui me touchait très personnellement, le problème de sommeil, puisque ça faisait 3 ans depuis le Covid, hein, comme beaucoup de Français, où mes nuits, mon sommeil ont commencé à se dérégler, à se transformer en véritable cauchemar, c'est le cas de le dire, et à tomber dans les... et à devenir complètement accro aux somnifères. Donc voilà, je voulais m'intéresser...
Cobaye voilà, pour vaincre l'insomnie. Et vous avez... Alors, il y a plusieurs parties là-dedans, dans ce dossier, hein, très très complet. Il y a d'abord quand même un nouveau somnifère. C'est quand même ça, un espoir du côté des médicaments qui seraient moins accoutumants que d'autres, moins dangereux que d'autres, et qui respecteraient plus les cycles du sommeil, c'est ça ?
Il y a effectivement une, il y avait déjà un très gros marché hein, des médicaments, des somnifères, des hypnotiques, puisque c'est un mal qui touche énormément de personnes, hein, des millions de Français. Je peux d'abord, avant de donner quelques précisions sur ce nouveau somnifère, rappeler quelques chiffres qui permettront à ceux de nos auditeurs qui sont insomniaques de réaliser à quel point ils ne sont pas seuls. Donc il y a des chiffres qui se fondent notamment sur les dernières enquêtes de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui montrent que pas moins de 37% des Français se disent insatisfaits de la qualité de leur nuit. Et donc on estime qu'il y a entre 15 et 20% de Français qui sont qui souffrent d'insomnie, sachant que 9% d'entre elles ont une insomnie qui est considérée comme chronique, avec des symptômes vraiment sévères, donc qui nuit vraiment à la vie quotidienne, à la qualité de vie, et donc qui prennent alors notamment tout un tas de remèdes pour dormir. Il y a un autre sondage qui est sorti au mois de mars qui montre que 30% des Français prennent tout un tas de substances. Alors ça peut être de la tisane ou des choses assez douces là, pour dormir, à des somnifères, des hypnotiques beaucoup plus durs, donc qui sont prescrits notamment, donc qui sont prescrits par ordonnance, donc disponibles en pharmacie. Il y en avait jusqu'à présent toute une gamme, et là donc est arrivé au mois de mars, ce qui nous faisait une actualité assez forte, un nouveau type de somnifère, vraiment une classe médicamenteuse totalement nouvelle. Une innovation comme on n'en avait pas connue dans le secteur depuis à peu près 40 ans. Donc jusqu'à présent, tous les somnifères agissaient en fait en stimulant le sommeil. On endort les gens en stimulant le sommeil, en agissant sur certains circuits neuronaux. En gros, on réduit l'activité cérébrale pour diminuer les informations sensorielles, le tonus musculaire, diminuer la conscience et finalement endormir les gens. Et donc en mars, est disponible en France, donc un somnifère qui agit sur un mécanisme totalement différent.
Qui agit sur quoi ? Alors ça s'appelle un drôle de nom, le Quvivic, c'est ça ?
Alors le nom du médicament c'est Quvivic, donc ça a été développé par une biotech suisse. Et le principe actif de ce médicament, c'est une molécule qui s'appelle daridorexan. Et donc il agit d'une manière totalement différente par rapport à tous les somnifères classiques. Donc, par exemple, comme les benzodiazépines et les molécules apparentées, donc les stars.
Et il agit comment, justement, ce médicament ?
Donc voilà, au lieu de stimuler le sommeil, il va plutôt, en fait, abaisser l'éveil, le niveau d'éveil. Donc c'est une stratégie, une approche totalement différente.
Et qui respecte les phases de sommeil, c'est ça, en fait. Et du coup, on est moins dans le coltard, pour le dire comme ça, en se réveillant. Et il y a moins de risques d'accoutumance, c'est ça, hein.
Alors voilà, il y a plusieurs avantages par rapport aux somnifères classiques. Les somnifères classiques, les gros problèmes, c'est les effets secondaires, la dépendance, l'accoutumance. Mm-hmm. Alors que le Quvivic donc aura beaucoup moins d'effets secondaires, pardon, montrent les études cliniques. Il y aura pas ces problèmes d'accoutumance. On va dormir mieux. Il y aura beaucoup moins d'éveil nocturne, ce qui handicape énormément les insomniaques. Et comme vous l'avez souligné, l'architecture du sommeil, notamment le sommeil profond, qui est si important pour consolider la mémoire, sont respectées, contrairement à ce que produisent tous les autres somnifères.
Donc c'est un bon somnifère, si j'ose dire, vraiment un nouvel espoir. Mais vous, Franck, vous avez tenté autre chose. Vous avez tenté les bienfaits des thérapies cognitives, c'est ça ?
Alors les somnifères peuvent servir en cas de crise et quand d'autres stratégies ne fonctionnent pas. Mais ce que préconise la Haute Autorité de Santé, donc en France, mais aussi toutes les instances européennes et internationales, c'est une approche non médicamenteuse, précisément. Pas avec des somnifères, mais avec en particulier ce qu'on appelle des thérapies cognitives et comportementales, qui sont considérées comme le traitement de première intention contre l'insomnie, et notamment contre l'insomnie chronique.
Alors qu'est-ce qui a marché pour vous, Franck ? On veut savoir.
Alors ça a marché parce que justement ça m'a permis enfin de me départir de cette pilule du soir dont j'étais complètement accro, dépendant. Et effectivement, c'est quelque chose qui est peu connu, même si c'est même si c'est considéré comme le traitement de première intention. Il y a même très peu de médecins généralistes qui le connaissent, qui vont avoir tendance à favoriser, effectivement, c'est plus facile. Donc des somnifères.
Faire une ordonnance avec un médicament.
Alors que effectivement, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, sont considérées comme le traitement qui marche, qui est le plus efficace sur le long terme. Alors je pourrais pas rentrer dans les détails.
Mais combien de séances en gros pour que ça marche ?
Je vous invite à lire tout ça dans l'autre dossier.
Voilà. Mais... Et ben voilà. Mais... On va se plonger dedans, oui, Franck ?
Non, pour répondre à votre question, ça dure 6 semaines. Alors 6 semaines où il y a
beaucoup,
il faut faire un peu d'effort, ça demande de l'engagement, mais il y a vraiment des résultats à la clé. Et je peux le confirmer.
Vous en êtes le témoin absolument pour vaincre l'insomnie. Donc plongez-vous, chers amis auditrices et auditeurs, dans Science et Avenir de ce mois d'avril, disponible en kiosque et dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir. À vous qui vivez loin d'ici, il vous suffit de nous demander par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, et comment les journalistes scientifiques ne se font pas seulement cobayes mais aussi lanceurs d'alerte, on poursuit avec le dossier de Pour la science, avec François Lassagne, consacré au glacier en sursis. Vous nous direz pourquoi et comment, François, limiter les dégâts juste après un détour dans le monde glacé. Évidemment, on l'entend déjà, The Frozen World d'Émilie Simon sur RFI.
Won't you open for me the door to your ice world? Your white desert. I just want to stare out over these snowfields until we are worn again. We'll belong to the frozen.
Sous la glace, The Frozen World, c'était la bande originale du film La Marche de l'Empereur, signée Émilie Simon sur RFI. Parce que vous lancez l'alerte, au fond, François Lassagne, pour la science, avec une assez sombre d'ailleurs, et un dossier très complet consacré au recul des glaciers, glaciers en sursis. Quelle perspective pour la fin du siècle ? L'affaire est grave, hein, tout de même, disons-le tout de suite.
Oui, l'affaire est grave, elle est pas, en apparence, elle n'est pas très nouvelle. Oui. Je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler du fait que les glaciers ne vont pas très bien, rétrécissent, s'effondrent. On voit souvent des images d'immenses blocs de glace qui partent à la dérive en Antarctique. Ce qu'on a eu la chance de pouvoir faire là, c'est de prendre la mesure globale, de pouvoir dire de combien ça fond et à quelle vitesse. Et en fait, c'est un exercice difficile. Un truc qu'on ne sait pas beaucoup en général, c'est d'abord le nombre de glaciers qu'il y a dans le monde. Il y en a plus de 300 000. Un glacier, c'est tout ce qui n'est pas la calotte polaire au nord et la calotte polaire au sud. Donc tout ce qui n'est pas la calotte du Groenland et de l'Antarctique, tout le reste qui fait de quelques kilomètres carrés à quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés, ça, ce sont des glaciers.
Et il y en a sur quasiment tous les continents.
Il y en a sur tous les continents. Alors évidemment, ça dépend de la latitude. Mmh. Plus on est haut en latitude, plus il y a des chances d'avoir des glaciers parce qu'il faut quand même qu'il fasse froid ou qu'on soit très haut. Hein, mais il y en a partout. Donc le travail qui a été fait et sur lequel on s'appuie, c'est un travail d'atlas mondial qui a été réalisé par Étienne Berthier et Romain Hugonnet, qui sont tous les deux au Lagos à Toulouse. Qui ont eu la chance de pouvoir exploiter les données d'un satellite qui est le satellite Terra de la NASA, sur lequel il y a un petit instrument hyper important qui s'appelle Aster et qui en gros prend des clichés deux fois par an de chacun des 300 000 glaciers répertoriés. Ça, ça permet de faire un truc très simple. Mmh. Ça permet de voir quelle est la surface d'un glacier, de voir s'il bouge, s'il change. Et puis après, par quelques astuces mathématiques un peu compliquées, on fait des hypothèses sur la nature de la glace, sur est-ce qu'elle s'écrase, est-ce qu'elle est plus ou moins, est-ce qu'elle est plus ou moins solide, plus ou moins dure. Et on arrive à recomposer l'histoire d'un glacier sur 20 ans. Donc c'est ce qu'ont fait ces chercheurs-là. Et ils ont regardé ce qui se passait entre 2000 et 2019. Et les conclusions, effectivement, sont assez impressionnante. Alors, il y a un chiffre brut qui dit qu'en 20 ans, on a perdu 267 gigatonnes par an de glace. Alors, c'est très difficile d'imaginer ce que ça veut dire. Pour donner une idée, c'est comme si chaque année, on recouvrait la France de 50 cm de glace, la France métropolitaine, et qu'on faisait fondre ces 50 cm de glace tous les ans. Donc ça, c'est ce qu'on perd par année en... Alors, sur les 20 dernières années, hein, alors la question bien sûr c'est qu'est-ce qui va se passer après. Mais déjà sur ce qu'on vient de mesurer en 20 ans, on s'est rendu compte que parfois il y avait des endroits où ça allait plus vite, comme l'Europe. On est très concerné en Europe dans les Alpes, notamment les Alpes, l'Europe centrale et grosso modo ce sont les Alpes. On a perdu un tiers de la masse en 20 ans.
Ouais, c'est énorme.
Et la question qu'on a posée à nos glaciologues, c'est qu'est-ce que vous avez repéré de surprenant ou plus que surprenant. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est très différencié en fait. Ils ont vu des choses inattendu en Islande. En Islande, ça fondait très vite entre 2000 et 2010, et puis ça s'est ralenti. Ralenti très significativement sur les 10 dernières années. Pourquoi ? On ne sait pas encore. Ils ont du mal à expliquer. Mmh. En Nouvelle-Zélande, c'est le contraire. Ça a été très stable pendant les 10 premières années, de 2000 à 2010, et puis là, c'est la dégringolade absolue. Ça fond très, très vite. Et puis surtout, ils ont été sidérés en 2022 sur ce qu'ils ont vu sur le sommet du Mont-Blanc. Pour la première fois depuis qu'on fait des relevés au sommet du Mont-Blanc, pour la première fois, ils ont vu des amincissements très important, de plusieurs mètres, jusqu'au sommet du dôme de Goûter. Jusqu'à présent, c'était des domaines qui étaient immuables. Bien sûr, il y avait des gels, des dégels, mais très faibles. Et là, ils ont vu qu'on perdait des mètres et des mètres par an. Et c'est une première. Donc oui, ils lancent l'alerte. Si on regarde dans les Pyrénées, pour ceux qui habitent plus dans le sud, dans la métropole, les Pyrénées, c'est un peu fichu, parce que les glaciologues, il y en a peu là-bas. Ils disent, en gros, il ne nous reste plus qu'à leur rendre hommage. C'est sûr, ils auront disparu.
C'est ça, il y en a qui auront disparu, et ailleurs dans le monde aussi, notamment Kilimandjaro, en Afrique, ou en Amérique du Sud, il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce qu'il y aura plus de glaciers?
C'est certain. En fait, ça, c'est absolument certain. La statistique pour le monde entier, la statistique globale, si on se projette jusqu'en 2100, si on parle en masse de glace, on en perd, s'il fait juste 1,5 degré de plus en 2100 par rapport aux années 90, on perd 26% de la masse. S'il fait 4 degrés de plus, on perd 40% de la masse. Et si on fait juste un comptage du nombre de glaciers, on sait qu'en 2100, il est à peu près certain qu'on aura perdu la moitié des glaciers. On pourrait dire, bon, on va perdre du paysage, on va perdre la poésie de ces massifs. Ça compte. Ce qui compte, bien sûr, c'est deux choses après, c'est que ce sont des réserves d'eau douce très importantes. Alors, ce n'est pas toujours très important partout. Des glaciers qui disparaissent, parfois c'est très important parce qu'il n'y a que ça comme ressource en eau. Parfois, ce n'est pas le cas. Si on prend le cas de la France métropolitaine, encore une fois, pour donner une image, en été, les glaciers alpins, la fonte en été, ça compte pour 40% du débit du Rhône à Avignon. Alors, ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas l'eau qui vient juste d'arriver d'il y a quelques semaines. C'est de l'eau qui a été stockée dans les rivières, qui va être stockée dans des aquifères et qui finit par ressurgir dans le Rhône. Mais au global, l'été, le soutien des étiages d'été pour les fleuves, les glaciers comptent beaucoup.
Donc, il y a vraiment des répercussions pour les humains et pour les animaux, d'ailleurs. Enfin, pour tous les vivants sur Terre, de cette fonte des glaciers.
Pour absolument tout le monde.
En même temps, avec ce constat qui est dramatique, il y a aussi peut-être quoi, un moyen d'y aller plus lentement, d'y aller plus doucement.
Évidemment, on a posé cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse est très, très claire, simple. Il faut réduire autant que possible le réchauffement climatique. Donc, le moindre gain en dixième de degré qu'on pourra éviter en réchauffement d'une année sur l'autre, c'est bienvenu parce qu'en fait, les glaciers, leur problème, c'est que la plupart du temps, ils sont juste à leur point de fusion. C'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu plus de chaleur pour qu'ils se mettent à fondre. Ils sont plus dans des domaines protégés. Et c'est ça la grande nouveauté. Et puis, évidemment, il y a la montée des eaux. Les glaciers continentaux, donc ceux qui ne sont pas la calotte antarctique et la calotte du Groenland, ça ne va pas contribuer beaucoup. Ça va être de l'ordre de quelques dizaines de millimètres ou un centimètre ou deux de montée des eaux. Par contre, si les calottes glaciaires fondaient, là, ce sont des mètres d'eau en plus pour le niveau marin. Donc ça, c'est un autre glaciologue, Richard Halley, de l'Université de Pennsylvanie, qui nous le raconte. Lui, ce qu'il surveille, c'est précisément ce qui se passe en Antarctique. Et ils essaient de comprendre à quelle vitesse se font les fractures de ces grands morceaux de glace qui sont juste au bord de l'eau et qui sont maintenus au-dessus de l'eau et qui sont rattachés aux glaciers posé sur le socle continental. Et ce qu'il voit, c'est que les fractures se multiplient et que plus l'eau se réchauffe, plus elle est très efficace à faire glisser le glacier sur le socle. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que les fameux glaciers de l'apocalypse, comme le Thwaites, qui sont susceptibles de faire monter le niveau marin de 2 ou 3 mètres en peu de temps, est-ce qu'eux, ils vont glisser rapidement dans l'eau? La réponse est on ne sait pas, laissez-nous travailler. Voilà ce que disent les glaciologues.
Alors,
pour l'instant dans ces régions.
Laissons travailler les glaciologues et écoutons les glaciers. Hein. C'est quand même la leçon de cet excellent dossier glacier en sursis. Quelle piste et quelle perspective. Dossier aussi urgent que complet à lire dans Pour la science de ce mois d'avril et dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Que diriez-vous maintenant, histoire de nous changer un peu les idées, de nous mettre dans la tête et dans la peau, dans l'œil d'un caméléon, d'un aigle ou d'une chauve-souris? Le monde vu par les animaux qui ont bien plus que nos 5 sens. Dossier à découvrir dans Science et Vie avec vous, Dylan Beiner, juste après avoir appris à se camoufler et à plonger comme une pieuvre ou un calmar dans l'Octopus Garden des Beatles sur LFI.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.
L'Octopus Garden des Beatles, comme si vous y étiez pour ouvrir le dossier de Science et Vie, le monde vu par les animaux. On commence par se mettre non pas dans l'œil, mais carrément dans les tentacules du poulpe avec le spécialiste Ludovic Dickel, auteur de La vie privée du poulpe, qui nous avait fait toucher du doigt ce que c'est que d'avoir 8 bras et tout plein de ventouses dessus.
La coordination motrice des bras et des ventouses est quelque chose d'extraordinairement complexe chez la pieuvre. Quand on fait ami-ami avec un poulpe et puis qu'on lui serre la main, enfin, je sais pas, on sent chaque ventouse qui va explorer chaque anfractuosité de la peau. C'est tout à fait spectaculaire. On a l'impression que chaque ventouse est autonome. Donc, on imagine la quantité d'informations qui doit parvenir au cerveau. C'est très, très compliqué à intégrer.
Comment se mettre dans les bras, la tête, la peau, les yeux des autres animaux? Dossier vraiment en couleur, qui est signé Isiama dans Science et Vie de ce mois d'avril. Dylan Beiner avec un magnifique caméléon en couverture.
Ouais, Yves nous a proposé ce dossier il y a quelques mois après avoir lu un best-seller de Ed Yong, qui est un journaliste scientifique américain qui a écrit un livre en 2022 ou 2023, je ne sais plus, et qui a été traduit, qui est sorti fin d'année dernière, et qui est un excellent bouquin qui nous plonge un petit peu dans vraiment les toutes dernières recherches qui ont été faites, parce qu'en fait, c'est il y a 30 ans, excusez-moi l'expression, mais on s'en fichait un petit peu des animaux. Hein, on nous aurait pris un peu pour des fous d'avoir fait une couverture sur ça. Et en fait, depuis, énormément d'éthologues, de neurologues, toutes sciences confondues, sont vraiment intéressés à qu'est-ce que ça ferait d'être dans la tête de ces animaux. Comment ils voient le monde? Comment ils les perçoivent? Parce que nous, on a 5 sens qui nous paraissent tout à fait sensés, la vue, l'odorat. Mais là, on rentre vraiment dans des choses qui, pour nous, sont complètement absurdes et inimaginable.
Il y a de l'hypervision, de la vibro-réception. C'est... Vous dites d'ailleurs cet article que les animaux, il y a bien plus que 5 sens en fait. Vous en comptez 11
On en compte 11 pour l'instant. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, quand on demande à des chercheurs, ils disent on estime qu'il y a à peu près 11 sens, donc qui partent vraiment sur des dimensions complètement recommandées pour nous. Le champ magnétique, le champ électrique.
Perçu par les oiseaux, par exemple.
Exactement. La thermoréception, qui sont perçues par les serpents. Ils ont des petites fossettes thermoréceptives où en fait.
Sentir la chaleur.
Ils voient la chaleur. Mmh. Donc en fait, c'est un peu particulier. C'est le réseau neuronal qui sous-jacent est le même que celui de la vue. Donc en fait, on ne sait pas trop comment ils le perçoivent, mais on estime que c'est comme s'ils voyaient la chaleur avec des petites variations de chaleur. C'est comme ça qu'ils chassent ou qu'ils se repèrent pour se déplacer.
C'est complètement fou de se mettre dans la tête d'un animal. Vous avez une interview de Vinciane Després, philosophe, éthologue, qui disait qu'il suffisait de poser les bonnes questions aux animaux pour qu'ils comprennent nos questions, mais, et qui a essayé quoi, de se mettre dans la tête d'un chien.
C'est ça, bah, pas que d'un chien, d'autres animaux, mais c'est vrai que le chien, c'est notre animal de compagnie par excellence, donc c'est toujours intéressant de se placer à leur niveau. Alors, toute la question là-dedans, c'était quel est l'intérêt d'essayer d'imaginer, parce qu'en vrai, c'est impossible. C'est comme si on parlait de physique quantique, essayer de se mettre au niveau d'une particule, de comprendre le comportement d'un électron. On ne sait pas. On suppose, on ne sait pas. Bah, se mettre dans la tête d'un animal, c'est la même chose. On suppose, le chien par exemple, on sait qu'il a une vue qui est bien moindre que la nôtre. Lui, il voit en deux couleurs. Il a des contrastes qui sont beaucoup moins intéressants que les nôtres. Par contre, au niveau de l'odorat, il y a tout un pan qui s'ouvre sur un carré d'herbe. Il pourrait vous dire exactement quel animal est passé là, si c'est son espèce. Il pourrait dire quelle est son humeur. Si une femelle est passée là, est-ce qu'elle est en chaleur ou pas plusieurs heures après le passage de l'animal.
Ouais, donc ça, vraiment, il y a... un monde d'odeur, par exemple, pour le chien. Pour les chauves-souris, c'est un monde d'écolocation. Là, c'est encore un truc incroyable.
Exactement. Bah, l'écolocation, on le connaît depuis longtemps. Maintenant, essayer de se représenter ça, c'est assez rigolo. Il y a des recherches qui ont été faites il n'y a pas très longtemps là-dessus, où les chauves-souris crient en ultrasons à plusieurs à 140 décibels, donc c'est énorme pour nous, sauf que c'est en ultrasons, on ne l'entend pas.
Oui, il se passe plein de choses qu'on n'imagine même pas.
Exactement, nous, en fait, les chercheurs estiment qu'une écolocation, c'est comme un flash. C'est donc un son qui part à une vitesse extrêmement folle, qui revient. Et en fait, mentalement, chez ce petit mammifère, c'est comme un flash qui représenterait le décor tout autour de lui, ou une proie. Donc en fait, il verrait un peu en 3D via juste un son. C'est pareil d'ailleurs avec les dauphins, qui fonctionnent aussi par écolocation, mais eux, sur de plus grandes distances. Les chercheurs estiment que ça serait un flash qui pourrait complètement nous dénuder. Ils verraient l'intérieur de notre corps, donc nos organes, notre squelette, parce qu'il y a une densité différente, donc forcément le son ne réagit pas de la même manière. Et donc pour eux, il y aurait une carte qui apparaîtrait sur une milliseconde où ils verraient un peu les contours de chaque...
C'est fascinant. Et ce fameux caméléon très coloré qui est en couverture, parce qu'il est capable de se camoufler lui aussi, c'est ça? Est-ce qu'on a une idée du monde intérieur du caméléon?
Bon, très compliqué. En fait, le caméléon, lui, son camouflage est dû à plein de choses. C'est pas tellement pour se camoufler de ses prédateurs, parce qu'en fait, il a déjà en général une couleur verte et il vit dans les feuillages. Le camouflage peut être lié à la température, à l'excitation sexuelle ou à plein de choses comme ça. Donc en fait, les couleurs des caméléons peuvent aussi servir au paranuptial. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un caméléon? C'est une grande question.
À laquelle je pense qu'on répondra jamais. Le monde vu par les animaux, dossier époustouflant, signé donc Yves Siama, à lire dans Science et Vie de ce mois d'avril, dont vous nous avez apporté, Dylan, quelques exemplaires. Ils sont pour vous, chers amis auditrices et auditeurs. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Et ce n'est pas fini. On propose maintenant de remonter le temps pour réécrire, grâce à la génétique, toute l'histoire de l'Europe, des Européens, de l'arrivée des premiers sapiens, jusqu'à la dernière déferlante venue des steppes d'Asie centrale. Un dossier complet qui bouleverse un pas mal d'idées reçues à découvrir avec vous, Hervé Poirier, dans Epsilon, juste après s'être demandé avec Richard Bonnat dans la playlist du mois sur RFI. Il y avait quoi avant? Bah oui, il y avait quoi avant?
Depuis que au pouvoir, il n'y a rien qui marche, je ne peux pas vous tromper. Il n'y a rien.
Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Banaga Negondo.
Il y avait quoi avant?
Songona Tekempade.
Il y avait quoi avant? On avait Cameroun Airlines.
Yeah, combi.
La régie faire cam.
Come and go.
Saut des carreaux dans l'eau.
Wopalo.
La sonnelle est partie.
Chéné.
Fonader, on a mis à terre.
McDo.
Camship avec roi bateau.
Que quoi?
Aujourd'hui c'est dans l'eau.
Hey.
Sophie Belle, Ina Bella Bo.
Subhanallah.
Il y avait quoi avant? 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 On avait sauté que c'est cadu. Une alors on n'allume plus.
Ça chauffe plus.
Roi d'auteur, c'est le couvre-feu.
Là alors.
Les enseignants sont matés.
Ah ça.
Qui a brûlé la sonara?
Hey.
Soudain Kamo en Kondjok. Soudain Blé en Gambéré. Et la CNPS fait la muette.
Woko woko woko. Le ninja va parler.
Il y avait quoi avant? L'ami Richard Bonin dans la playlist du mois sur RFI. Il y avait quoi avant, Hervé Poirier? Quand la génétique raconte l'histoire et réécrit l'histoire des premiers Européens, c'est le dossier d'Epsilon et la une d'Epsilon sur la cible.
Il y avait quoi avant? Eh bien, il y avait des gens qui faisaient des bébés. Et c'est ça la singularité de l'histoire racontée par les généticiens. On connaît l'histoire classique, l'histoire des grands événements. On connaissait au XXe siècle l'histoire des grandes structures sociales. Les généticiens arrivent depuis le début du XXIe siècle, avec leur analyse génétique massive, à raconter l'histoire des gens qui ont fait des bébés ensemble. Une histoire à hauteur d'humain.
C'est vraiment ça, la révolution génétique. Et là, votre dossier est vraiment consacré à la réécriture de l'histoire des premiers Européens depuis le début, depuis les premiers sapiens qui arrivent en Europe, depuis l'Afrique et le Proche-Orient, rappelons-le.
Alexandra Pienne, donc notre journaliste à Epsilon, qui avait déjà raconté l'histoire génétique de la France dans le numéro 1 d'Epsilon il y a 2 ans et demi, suit tous ces chercheurs qui... là, ils sont lancés dans un projet colossal. Ils ont rassemblé, imaginez, 1600 génomes trouvés aux quatre coins de l'Europe qui datent de moins 12 000 à moins 2700. Ouais. Donc, c'est des données absolument colossales. Mais la puissance de la biotechnologie peut aujourd'hui analyser en série ces génomes et reconstruire en temps réel le fil de ces rencontres, de ces migrations. Comment est-ce que les agriculteurs, enfin la vitesse avec laquelle les agriculteurs se sont répandus du sud vers le nord, la vitesse avec laquelle des pasteurs ont été de l'est vers l'ouest, les rencontres, est-ce que les populations ont adopté les pratiques des arrivants, est-ce que les populations ont été remplacées par les arrivants, c'est tous ces détails à hauteur d'humain qu'aujourd'hui racontent les généticiens sur l'ensemble de l'Europe.
Et en quoi ça change? Ça change beaucoup de choses par rapport à des légendes, à des idées reçues, à des grandes invasions qui n'étaient peut-être pas aussi grandes et invasives que ça, ou qui se sont peut-être plus mélangées
La préhistoire devient histoire. On appelait ça préhistoire parce qu'il n'y avait pas de texte écrit. Aujourd'hui, en fait, on a un texte écrit. C'est le texte génétique. Donc, on se rend compte que le clivage entre les Britanniques, entre les Anglais, les Gallois et les Écossais, il remonte à des millénaires. On se rend compte que les Bretons, ils sont là depuis 2500 ans comme une énorme singularité au sein de la population française. On se rend compte que les Italiens, c'est une Europe en résumé. On se rend compte que les Ukrainiens, c'est le premier lieu où ce grand mélange que sont les Européens depuis 2000 ans, entre quatre grandes populations, un tout petit peu de Néandertal, des agriculteurs venus d'Anatolie, des pasteurs venus de l'Est et les chasseurs-cueilleurs qui étaient là depuis 30 000 ans. Ce grand mélange-là, c'est les Ukrainiens qui les ont vécus le premier. Bref, on se balade aux quatre coins de l'Europe pour voir toute la singularité. Et que la grande histoire de l'Europe, les grandes choses se sont faites bien avant que les Grecs, les Romains ou les invasions barbares arrivent. Nous sommes aujourd'hui... Les peuples européens ont été bâtis principalement entre moins 8000 et moins 3000 ans. Une histoire qui n'était pas racontable par les outils des historiens classiques.
Ah oui, c'est extraordinaire. Ça ouvre vraiment un autre pan de notre histoire. On rappelle qu'on est tous venus d'Afrique, en plusieurs sorties différentes, et qu'il y a, j'imagine, le même travail, mais époustouflant à faire, sur le continent africain, par rapport justement à la réécriture de notre histoire humaine. Hein.
C'est là, aujourd'hui, que ça se joue. Et Alexandra est en train de en contact avec tous ces chercheurs qui rassemblent des données. Les données sont beaucoup plus difficiles parce qu'elles se conservent moins bien. vu les conditions climatiques de l'Afrique, et plus difficile parce que l'histoire est plus profonde.
C'est ça, qu'il faut remonter bien encore plus loin.
Mais nul doute que dans quelques mois, dans quelques années, nous serons en mesure de raconter la grande histoire génétique de l'Afrique.
Et donc la grande histoire génétique de l'humanité. Comment la génétique réécrit toute l'histoire de l'Europe et des Européens. Dossier très complet, assez bouleversant, je dois dire, à lire dans Epsilon de ce mois d'avril, dont vous nous avez aussi apporté, Hervé, quelques exemplaires pour vous les offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Êtes-vous prêts maintenant à mettre en question la vitesse d'expansion de l'univers? Rien que ça. Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace, nous fera partager cet épineux problème qui divise la communauté des cosmologistes. Quelle est la vitesse de l'expansion de l'univers? Allez, on s'interroge au son d'un très bon duo reggae dub, Prince Fatty et Shniss McMenamin. Expansions sur RFI. En version reggae sur RFI pour vous, Philippe Hénarejos. Nous voilà toutes, oui, en train d'étendre, d'expandre notre esprit pour tenter de comprendre l'une des plus importantes énigmes de la cosmologie. Quelle est la vitesse de l'expansion de l'univers, c'est ça?
C'est ça. Alors, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Bon, on sait que l'univers est en expansion depuis première décennie du XXe siècle. C'est le travail de Edwin Hubble, notamment, dans les années 20. En 1998, on découvre que cette expansion s'accélère.
C'est ça.
Bon. Et toujours, dans tous les cas, on essaie de mesurer à quel taux exact l'expansion se produit. Et là, depuis plusieurs années, il y a deux méthodes pour mesurer ça. Deux méthodes qui ont l'air extrêmement fiables l'une comme l'autre, et qui donne des résultats qui, plus on les analyse, plus s'écartent les uns des autres.
Et alors, qui a raison?
Qui a raison? Alors, on pensait qu'avec de nouveaux outils qui ont été lancés récemment, par exemple le télescope spatial James Webb, on allait pouvoir voir qu'est-ce qui n'allait pas sur l'une des méthodes, puisque l'une des méthodes consiste à mesurer la vitesse d'éloignement de certaines galaxies, et pour ça, ça repose sur une bonne évaluation des distances qui repose sur certaines étoiles variables, etc. Mais on ne les voit pas jusqu'à une certaine distance. Donc, il y a des biais possibles. Donc, se disait, le télescope Hubble n'a pas assez de résolution. On va voir avec le JWST qui regarde dans une autre longueur d'onde. Et le résultat est exactement le même. 73,1 km/s par mégaparsec, c'est le taux d'expansion de l'univers mesuré par Hubble et par JWST. Voilà.
D'accord.
Et d'un autre côté, vous avez les cosmologistes purs et durs, mm-hmm. qui regardent, eux, le fond diffus cosmologique, mm-hmm. c'est-à-dire la première lumière de l'univers, 300 000 ans après le Big Bang. C'est notamment le travail du satellite européen Planck, mm-hmm. Qui ne cesse de regarder la voûte céleste, qui affine ses mesures. Et là, on tombe sur une valeur de 67,4. Alors vous direz, c'est pas énorme.
67 à 73.
Ouais, mais en fait, le destin, au bout de plusieurs milliards d'années, c'est plus le même.
Hein. D'accord.
Le contenu de l'univers, c'est plus le même. Okay. Ça change considérablement les choses.
Bah, oui.
Et là aussi, avec une autre méthode, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir, qui consiste en gros à mesurer la répartition des galaxies. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est compliqué, ça prendra du temps. On retombe sur exactement la même valeur, 67,4. Autrement dit, les deux méthodes indépendantes, chaque fois qu'on essaie de les vérifier ou de les contredire par des méthodes voisines, on les confirme. Donc on confirme le hiatus, la tension entre ces deux mesures.
Alors, autant raison l'une que l'autre, donc il y en a une qu'à faux.
Donc évidemment, les tenants de l'un disent, ben non, mais c'est vous qui vous êtes trop théoricien, il y a certainement des biais dans votre modèle standard. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui propose d'abandonner le modèle standard. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a 500 possibilités qui ont été mises sur la table pour essayer de résoudre ça, mais qui posent toutes plus de problèmes qu'on en résolve. Et donc, il y a, au milieu de tout ça, il y a une astrophysicienne américaine qui a proposé d'essayer d'échelonner les distances par une autre méthode que ces fameuses étoiles à variables. Donc c'est basé sur des jantes rouges, qui a commencé son travail et qui tombe sur une valeur qui est pile entre les deux, 70. Alors on pourrait se dire, c'est bien, ça y est, ça réconcilie. Sauf que non, en fait, les deux méthodes, résolument, il y a, selon des spécialistes, il y a une chance sur un million pour que cet écart soit dû au hasard. Donc il y a vraiment un problème d'un côté ou de l'autre. Et donc on en est là. Alors on a remis le couvert dans Ciel-Espace pour vous expliquer tout ça, parce que ça fait plusieurs années que ça dure. On se disait, enfin, on va trouver, parce qu'il y a des nouvelles mesures, des nouveaux résultats. Eh bien non, les nouveaux résultats ne font que confirmer le hiatus. Et donc, un peu... La désorientation dans laquelle se trouvent les cosmologistes aujourd'hui.
Fascinant, en tout cas, à lire pour tenter de comprendre justement pourquoi la vitesse d'expansion de l'univers pose un tel problème aux cosmologistes. La tension s'accroît à tous les sens du terme.
Absolument.
Et c'est à lire dans Ciel et Espace, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?», on va donner rendez-vous le mois prochain, hein, chers camarades, lundi 6 mai, très exactement, pour une nouvelle infusion de science en votre compagnie. Toujours plein de magazines à gagner. Merci de nous avoir apporté. Merci Philippe, merci Dylan, merci François, Hervé et Franck. Et je rappelle vos titres respectifs. Science et Avenir, Epsilon pour la science, Science et Vie, Ciel et Espace. À dans un mois et puis à bientôt.
Contactez autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel et bien sûr vous abonner à notre podcast. Demain, place à un autre club de la presse, c'est le club de C'est pas du vent sur RFI. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, si vous le voulez bien, autour de la prochaine éclipse totale du soleil visible depuis les États-Unis et le Mexique. Lundi 8 avril prochain, nous serons au pic du cycle de 11 ans de l'activité solaire et on vous en dira plus sur notre étoile avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ça sera l'heure de retrouver les informations sur RFI.